Bonjour, Régis Coulange. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits. Cette émission s'appelle « Pour la dignité ». Tous les derniers lundis de chaque mois, de 16h30 à 17h30 sur Fréquence Mistral 99.3.
Sur Fréquence Mistral 99.3.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour Odile, bonjour Franck et bonjour Jacqueline. Alors pour cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jacqueline Legrave, qui est coprésidente de Femmes Solidaires Digne. Et je suis d'autant plus content parce qu'on a déjà travaillé ensemble et on s'est rencontrés en fait en 2004 quand Amnesty International a lancé une campagne mondiale sur les violences faites aux femmes et a embauché une chercheuse qui a fait toute une recherche sur la France et qui a sorti un rapport sur les violences faites aux femmes en France, une affaire d'État. Voilà, alors c'était un peu la première fois que Amnesty s'occupait de violences, notamment de violences familiales à l'intérieur des familles, et interpeller les États en disant « mais vous avez une responsabilité dans ce type de violence ». Alors bien sûr, Amnesty ne s'est pas substitué aux associations de défense des droits des femmes comme Femmes Solidaires ou le CIDF. Mais c'était juste se servir de la notoriété d'Amnesty pour faire un porte-voix et pour que les gens prennent davantage conscience de la situation dramatique dans laquelle vivent certaines femmes et de nombreuses femmes, hein, puisqu'il y a énormément de décès suite à ces violences, sans compter les traumatismes sur les enfants, etc. Voilà, donc en 2004, j'ai eu cette chance de travailler avec Jacqueline et Femmes Solidaires. Et on a fait des interventions ensemble. Et je l'ai invitée là, cette fois-ci, parce qu'on a un projet commun pour le 25 novembre. Et Jacqueline vous en parlera davantage tout à l'heure. Voilà. Et puis, on a aussi travaillé ensemble sur les violences faites à des enfants dans le cercle familial. Notamment, on a suivi le cas d'une petite fille qui avait dénoncé des violences à caractère sexuel. Et bon, ça a été très difficile. En fait, on s'est heurté au déni de toute la justice et de la société sur ces problèmes, hein, de violences à l'intérieur de la famille concernant des enfants, de violences à caractère sexuel. Et finalement, il y a un livre. Les choses avancent quand même un peu. Il y a un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est rédigé par des professionnels, qui s'appelle « Danger en protection de l'enfance, déni et instrumentalisation perverse ». Et en fait, tout ce que l'on avait ressenti en suivant cette maman et cette petite fille, tout ce déni, c'est bien exprimé dans ce livre de professionnels qui, justement, insiste sur cette régression dans la protection de l'enfance maltraitée. Voilà, donc Jacqueline, bonjour.
Oui, bonjour Régis, merci de m'accueillir dans ton émission, j'en suis très flattée et heureuse, merci.
Voilà, puis c'est pour la dignité, donc on travaille en fait pour la dignité de tous les êtres humains. Voilà, alors Jacqueline, tu nous présentes un petit peu ton association et...
Oui, donc moi je suis coprésidente de l'association Femmes Solidaires de Digne-les-Bains, mais ça n'est pas une association purement locale. Femmes Solidaires est un mouvement national qui a été créé en 1945 à partir des comités féminins de la Résistance. À l'époque, il y avait même 100 000 adhérentes. Et donc, en fait, elle s'appelait à l'époque l'Union des femmes françaises et elle a été transformée en Femmes Solidaires en 1998 parce que nous sommes solidaires de toutes les femmes de la planète. Toutes les femmes de la planète sont nos sœurs et pas seulement des femmes françaises. Nous sommes une association qui regroupe aujourd'hui 10 000 adhérentes dans toute la France, ce qui en fait la plus grande association féministe de France en matière de nombre d'adhérentes. Bien devant d'autres associations comme Oser le féminisme ou d'autres. On est répartis en fait dans 190 associations locales qui se développent sur toute la France et aussi dans les départements d'outre-mer. Et on est 190 comités, on appelle ça des comités. Et nous sommes le comité de Digne-les-Bains. Nous sommes 36 adhérentes et un adhérent, puisque nous ne sommes pas fermés aux hommes. Nous estimons que nous avons besoin des hommes pour défendre les droits des femmes, des hommes humanistes, on va dire, voilà. Donc, nous sommes une association d'éducation populaire, c'est-à-dire que nous ne gérons pas, par exemple, des centres d'hébergement d'urgence pour les femmes battues, nous ne faisons pas de l'action sociale à la place des services sociaux, mais nous sommes une association militante qui combattons pour les droits des femmes et pour faire respecter ces droits, pour que ces droits arrivent dans la réalité, dans la vie de tous les jours, alors même qu'ils sont inscrits dans les lois, mais les lois sont mal respectées, elles ne sont pas toujours appliquées et de manière souvent inégale au niveau territorial. Voilà. Alors, notre action, c'est essentiellement des actions, comme je le disais, éducatives pour le grand public et d'information et d'éducation. Voilà pourquoi nous avons un programme tous les ans. Je ne sais pas si on peut parler dès maintenant du 25 novembre.
Oui, bien sûr.
Voilà. Notre programme s'articule autour des journées nationales et internationales consacrées aux femmes, aux droits des femmes. Et le 25 novembre, tous les 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre toutes les violences masculines faites aux femmes. Toutes les formes de violences masculines faites aux femmes. Bien entendu, en France, on parle essentiellement des violences conjugales. Mais il y a d'autres formes de violence et notamment le viol, bien entendu. Nous passons en général un film suivi de débats. Et cette année, donc le 25 novembre, nous allons passer le film que d'ailleurs Amnesty International a déjà projeté, le film qui s'appelle « L'homme qui répare les femmes ». De Thierry Michel et Colette Brackmann. Et le sujet, c'est le parcours du docteur Denis Mukwege. Comment tu le prononces, Régis? Alors,
Mukwege.
Mukwege, voilà. Qui soigne les femmes violées par les combattants de tous bords des conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, le film parle donc des violences, du viol comme arme de guerre dans la région du Kivu. Et le viol, comme on le sait, détruit tout. Le viol détruit les corps des femmes, mais le viol détruit aussi les âmes. Les femmes qu'il soigne, ce docteur, ont été détruites, ont été rejetées aussi par leur père. Et donc, il leur permet une certaine résilience et leur apprend qu'elles ont des droits. Voilà. Alors, je ne sais pas si, Régis, tu peux dire un petit mot de plus pour ce film. En fait, ce film, nous allons le présenter ensemble avec donc Régis et une autre amie d'Amnesty International afin de faire un débat ensuite à l'issue de la projection. Ce sera à Cinétoile le 25 novembre, le vendredi 25 novembre à 18h30. Voilà.
Voilà, alors oui, en effet, ce film, L'homme qui répare les femmes, Amnesty International l'a soutenu à sa sortie et a organisé de nombreux débats dans toute la France sur ce thème des violences sexuelles au Nord Kivu et notamment de l'utilisation des viols comme arme de guerre. Et ce docteur Mukwege a reçu le prix Sakharov en 2014. Il a été deux fois nominé au prix Nobel. C'est une personne assez extraordinaire, mais qui est aussi très humble et qui, en fait, je l'ai entendu dans un interview, il disait « Vous me dressez des louanges, mais c'est à toutes ces femmes qu'il faut dresser des louanges pour leur capacité à se reconstruire. » Donc, quand il a créé une association et il travaille au sein d'un hôpital. Et il est menacé, bien sûr, de mort et protégé par les casques bleus des Nations Unies parce que, justement, il répare ces femmes. Et non seulement au niveau physique, hein, puisqu'il est chirurgien, mais il les répare aussi avant au niveau psychologique avec toute son association pour qu'elles soient prêtes à pouvoir recevoir ces soins physiques. Il faut déjà aussi les reconstruire et leur dire que bon, elles sont avant tout des victimes et elles restent des femmes avec toute leur dignité. Voilà, donc c'est un film qui est prenant, qui est difficile mais aussi plein d'espoir. Et je vous conseille vivement donc de venir le voir. Alors le débat sera animé par Femmes Solidaires et Amnesty International. Alors pour Amnesty International, j'ai demandé à Raquel Tiercelin, qui fait partie du groupe de Pertuis, de venir animer ce débat avec moi et Femmes Solidaires, parce qu'elle l'a déjà fait l'année dernière dans son groupe. Et puis bon, c'est une femme remarquable qui est aussi, dans cette période où il y a beaucoup de réfugiés, c'est une femme qui est réfugiée espagnole, puisqu'elle a un certain âge maintenant, et à 6 ans, elle a quitté l'Espagne sous la menace des fascistes pour être accueillie en France. Mmh. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a Amnesty depuis très longtemps, et je serais ravi aussi de l'accueillir, de la présenter à Jacqueline. Et puis ensuite, on partira... Le lendemain, on partira en Haute-Savoie pour retrouver notre amie Antoinette Chahine. J'en avais déjà parlé. Puis
oui, on l'avait reçue ensemble.
Jacqueline la connaît.
Oui.
Voilà, c'est une femme qui avait été condamnée à mort à tort, torturée au Liban, et puis finalement libérée grâce notamment à la pression d'Amnesty International. Et maintenant, c'est devenu une militante contre la torture et la peine de mort. Et donc, elle est invitée par le groupe d'Amnesty et de l'ACAT de Chamonix et de Cluse pour justement participer à une conférence à Chamonix, des interventions dans les lycées, et puis à Valorcine, le 30 novembre, ce sera une grande fête parce que Valorcine a décidé d'être une ville contre la peine de mort. Voilà. Donc ça va être officiellement... célébré avec la présence d'Antoinette Chahine. Voilà. Voilà pourquoi Raquel va venir, donc participe à ce débat. Et ensuite,
oui, je voulais juste rajouter, Régis, que pour Femmes Solidaires, les personnes qui vont animer le débat, ce sera moi-même, ma coprésidente Denise Hatt, et également une amie adhérente qui s'appelle Chantal Marco et qui est médecin, donc qui connaît bien le sujet. Voilà.
Voilà. Peut-être on pourrait rappeler l'heure et le lieu.
Alors c'est donc le 25 novembre 2016 au cinéma Cinétoile à Digne-les-Bains. Donc c'est un vendredi et c'est à 18h30. Pas 18h, hein, 18h30. Voilà, c'est le cinéma qui a exigé cet horaire. Voilà.
On va peut-être passer à
une
petite respiration musicale.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Voilà, très très belle chanson de Pierre Perret, Lily, qui correspond bien aussi à nos combats, au contexte actuel et à nos combats communs. Voilà, donc Amnesty International a élaboré en 1998, pour les 50 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte intitulé « Pour un langage non sexiste des droits humains ». Et dans tous ces discours, nous essayons de changer donc l'expression « droit de l'homme » en « droit de la personne humaine »,« droit humain » et « droit de l'être humain ». Voilà, c'est très important parce que nous luttons contre toutes les discriminations et on combat pour la dignité humaine. Hommes, femmes, enfants, homosexuels, transgenres, etc.
C'est vrai que dans d'autres pays francophones, comme au Canada ou ailleurs, on parle de la Déclaration des droits humains, alors qu'en France, on s'obstine à dire Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En fait, c'est la Déclaration des droits humains et des citoyens et des citoyennes. Donc, c'est vraiment très important de parler aussi au féminin, surtout quand le féminin existe, de toute façon. Et à ce sujet, le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui est présidé par Daniel Bousquet, a édité récemment un petit fascicule sur donnant 10 recommandations pour parler au féminin et ne pas continuer à employer uniquement le masculin, même quand le féminin existe, sans parler de la féminisation des mots. Et voilà, donc c'est simplement parler au féminin quand le féminin existe.
Oui, et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen vient de la Révolution française, mais depuis, en 1948, a été rédigée une Déclaration universelle des droits de l'homme qui est universelle, donc qui concerne tous les pays. Et donc la France l'a dans sa charte, et c'est dans la charte aussi de l'ONU. Donc tous les pays qui sont à l'ONU doivent respecter cette DUDH. Et bon, c'est vrai que ce terme, on ne peut pas le changer puisque c'est un texte officiel. Mais dans l'utilisation de nos textes, quand on intervient, on parle de droits humains, de droits de la personne humaine, hein, et on évite droits de l'homme. Voilà. Peut-être tu pourrais, Jacqueline, faire un petit rappel sur... Alors, le 25 novembre, c'est une date importante, mais il y a le 8 mars aussi.
Oui,
alors, tu pourrais nous dire un petit peu l'historique de cette journée.
Oui, tout à fait. Alors, le 8 mars, c'est la journée internationale pour les droits des femmes, donc qui existe en France depuis 1982. Il faut bien dire journée internationale pour les droits des femmes et ne pas dire, il faut vraiment exclure l'expression journée de la femme. Pour nous, féministes, la femme n'existe pas. La femme est un fantasme masculin. La journée du 8 mars est bel et bien une journée pour mettre en avant, valoriser les droits des femmes, montrer ce qui n'existe pas et montrer surtout la situation actuelle des femmes en France et dans le monde. Et en fait, l'historique de cette journée, c'est en 1910, donc Clara Zetkin, qui est une journaliste allemande, enseignante et femme politique, une figure historique du féminisme, qui a proposé lors d'une conférence internationale des femmes socialistes la création d'une journée internationale pour les droits des femmes dans tous les pays. Donc à l'époque, elle demandait le droit de voter, le droit au divorce, le droit à l'union libre. Alors vous allez me dire que tous ces droits sont obtenus et qu'est-ce qu'elles veulent encore? Bon, on pourra en parler si vous voulez. Donc le 8 mars 1977, les Nations Unies ont officialisé la journée et ce n'est que le 8 mars 1982 que la France en a fait une journée nationale et internationale. Voilà. Et c'est à l'occasion de ce 8 mars, tous les ans, que nous faisons, nous programmons un mini-festival de 2 ou 3 jours, selon le cas, au cours duquel nous passons des films et nous faisons des débats ou nous faisons des conférences-débats. Voilà, sur la situation des femmes, avec un thème toujours différent d'une année sur l'autre. Voilà.
Très bien. Alors, dans l'actualité d'Amnesty International, nous avons sorti un rapport récemment sur la situation du Soudan du Sud. Et vous allez voir que les violences sont aussi dirigées envers les femmes, hein, contre les femmes. Dans cette partie du monde. Voilà, en juillet dernier, à Djouba, la capitale du pays du Soudan du Sud, les forces du gouvernement du Soudan du Sud ont tué et violé de nombreux civils. Des violations alimentées par le commerce des armes, contre lequel nous luttons et nous demandons des règles strictes. Voilà, donc c'est une situation donc, qui rejoint le combat de femmes solidaires, encore une fois. Hein. Je vous donne quelques exemples. Une femme d'Inka, dont le mari est porté disparu. Les soldats étaient aussi à la recherche de femmes Nuers. Alors Nuers, c'est une ethnie hein, qui est persécutée au Soudan du Sud. Donc ces soldats étaient à la recherche de femmes Nuers pour les violer, dans le but non seulement de leur faire mal, mais aussi d'humilier et de punir leur mari. Une femme Nuer de 35 ans qui a été violée par 3 soldats a expliqué que ces hommes avaient dit avec insistance « Ton mari est un nuer, c'est notre ennemi ». Elle a dit que ses vêtements étaient ensanglantés quand ils l'ont finalement relâché. Des soldats du gouvernement ont aussi violé d'autres femmes et jeunes filles n'appartenant pas au groupe ethnique Dinka. Un membre du groupe ethnique Kuku a dit que ses 2 sœurs, âgées de 14 et 17 ans, ont été violées par des soldats le 11 juillet, dans la propriété familiale, dans le quartier de Munuki, à Djouba. Il a expliqué que les soldats, qui ont aussi pillé la propriété, ont accusé la famille de soutenir Machar, qui est l'opposant politique, si vous voulez. Voilà, donc de plus en plus dans les conflits armés, les civils sont pris pour cible. Et dans les civils, il y a énormément de femmes, d'enfants et de vieillards aussi. Voilà, donc on s'élève contre ces atteintes au droit international, hein. Et c'est voilà. Et donc le Soudan est une illustration de ce phénomène hein, du viol utilisé comme arme de guerre que l'on retrouve aussi dans de nombreux pays. Voilà, on a rendu un rapport public sur cette mission que nous avons effectuée au Sud-Soudan. Voilà. Ensuite, on a aussi été interpellés. par après l'annonce de l'Afrique du Sud de se retirer de la Cour pénale internationale, la Gambie lui emboîte le pas. Et ces décisions nous inquiètent au plus haut point, puisqu'on a beaucoup travaillé pour la création de cette Cour pénale internationale, afin que les dictateurs, les responsables de crimes contre l'humanité ne puissent pas finir leur jour tranquillement, mais soient mis devant leurs responsabilités et devant une justice internationale. Donc c'est une annonce qui est ce retrait de la Gambie, après le retrait de l'Afrique du Sud, de la Cour pénale internationale. C'est une annonce qui a un coup porté à des millions de victimes à travers le monde, en particulier car elle intervient peu après cette décision donc, d'Afrique du Sud et du Burundi aussi de se retirer. Dans sa déclaration, le ministre de l'Information reproche à la Cour de persécuter et d'humilier des personnes de couleur, en particulier des Africains. Mais rien n'est plus faux, parce que pour de nombreux Africains, la Cour pénale internationale, au contraire, représente la seule possibilité d'obtenir justice pour les crimes qu'ils ont subis. Voilà, donc cette annonce de la Gambie nous a beaucoup affectés, et beaucoup aussi la procureure de la Cour pénale internationale, puisque Fatou Bensouda est elle-même gambienne, et de voir son pays se retirer de cette Cour pénale, ça a été très affligeant pour elle et pour le combat contre l'impunité au niveau mondial, qu'elle lutte en étant procureur de cette cour. Voilà, donc c'est une mauvaise nouvelle et on espère qu'il ne va pas y en avoir d'autres et qu'au contraire, d'autres pays vont rejoindre la Cour pénale pour lutter contre l'impunité, pour les crimes les plus graves. Voilà, on va peut-être passer à un petit morceau musical maintenant.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France.
Voilà, encore une belle chanson. Je vais vous parler maintenant d'une campagne que nous avons débutée en octobre 2016 et qui doit se terminer fin 2018, qui s'appelle I Welcome, sur l'accueil des réfugiés. Voilà, nous vivons en ce moment la plus grave crise de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, hein, qui avait vu aussi énormément des milliers de personnes fuir le fascisme et le nazisme dans de nombreux pays d'Europe. C'est une crise des réfugiés, mais c'est aussi une crise de l'accueil et une crise du droit d'asile, hein, puisque le droit d'asile est inscrit dans tous les textes internationaux de protection. Et voilà, Amnesty donc se lance dans cette campagne, sachant qu'il y a plus de 20 millions de personnes qui sont sur les routes de l'exil, loin de chez elles, obligées de tout abandonner, de fuir. La moitié de ces 21 millions de personnes sont des enfants. Et ces personnes fuient les violences du monde, hein, conflits, terrorisme, répression politique, discrimination et intolérance. Leur pays, c'est souvent la Syrie, bien sûr, l'Afghanistan, le Myanmar, l'Érythrée, le Soudan du Sud, le Honduras. La liste est longue et la crise est mondiale. Donc ce que va demander Amnesty dans cette campagne, il y a trois points importants. C'est ouvrir des voies légales et sûres pour les réfugiés, parce que la mer Méditerranée est devenue un immense cimetière. Ne pas conclure d'accords qui visent à maintenir les réfugiés à distance. Et puis renforcer la protection de ces réfugiés. Je peux vous citer le cas, là, par exemple, de Yela et Wala, qui vivent des souffrances depuis très longtemps. Ce sont des étudiants de Syrie qui ont deux petites filles, Sarah et Fatima. Le frère de Wala, après avoir survécu à un naufrage mortel sur l'île de Lampedusa en octobre 2013, s'est vu accorder une protection temporaire à Malte. Les autres frères et sœurs et les parents de Wala sont en Allemagne. Et en 2014, ce couple a trouvé refuge en Turquie, où est née leur fille aînée, Sarah. Voilà ce qu'ils disent. « Nous nous sommes mariés pendant la guerre, en sous-sol. Le jour de notre mariage, une forte explosion a eu lieu devant chez nous. La maison de notre voisin et celle de mon oncle ont été détruites. » Quand le couple est arrivé sur l'île grecque de Lesbos, fin février 2016, Wala était enceinte de 6 mois. Yela et Wala se sont rendus en Grèce continentale pour finalement se retrouver dans un camp de réfugiés informel, connu sous le nom du camp Echo, car il est proche d'une station-service de ce nom. Ils y sont restés 3 mois, les conditions étaient vraiment difficiles. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait dans notre tente. Sarah a été atteinte de pneumonie et n'est toujours pas guérie. Elle va bien pendant 2 jours, puis elle est malade les 2 jours suivants. Quand nous dormions, notre tente pouvait s'envoler à cause du vent. Voilà un peu ce que vivent les conditions vécues par beaucoup de gens qui fuient les combats, qui fuient nos bombes aussi. Hein. Et donc, ce n'est pas de gaieté de cœur qui quittent leur pays. Et ils ont besoin d'une protection. Et pour l'instant, la plupart trouvent protection dans des pays limitrophes, qui sont des pays pauvres. Hein. Je prends par exemple l'exemple du Liban, qui accueille énormément de réfugiés. Ça correspondrait, par exemple, pour la France, par rapport à la population, à un accueil de 20 millions de personnes. Hein. C'est énorme. Hein. Donc ça provoque des situations, des difficultés dans l'emploi, dans le logement, qui sont terribles à la fois pour les réfugiés et puis aussi pour les Libanais, hein, qui ont déjà vécu des guerres, qui ont des difficultés à construire leur pays. Voilà, donc il y a une responsabilité des États riches, comme le nôtre, devant cette crise
Il y a la Grèce aussi. La Grèce, c'est un petit pays de 5 millions d'habitants et qui accueille énormément de réfugiés, alors que nous, nous sommes 65 millions d'habitants. Voilà, donc c'est complètement disproportionné.
Voilà, donc il y a vraiment il y aurait vraiment besoin d'une répartition équitable en fonction aussi des richesses du pays. Et si vraiment les États s'y mettaient pour de bon, au lieu de toujours regarder les sondages et leurs cotes de popularité, on pourrait régler davantage de problèmes. Donc c'est une campagne que nous allons mener jusqu'en 2018. Et avec, bien sûr, d'autres associations. Et puis, on voit que même s'il y a beaucoup de rejets, on entend beaucoup de paroles très dures envers ces personnes. Il y a aussi beaucoup d'accueil, beaucoup de gens prêts à donner du temps, de l'argent, de l'aide à toutes ces personnes. Et heureusement, ça réchauffe le cœur. Voilà. On va peut-être maintenant écouter un ancien réfugié aussi espagnol, Lenny Escudero, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et qui a fait une chanson qui s'appelle « Le siècle des réfugiés ».
J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre, des humiliés, des sans-logis qui tremblent. Les oubliés aux mal partis ressemblent. Ils sont toujours les bras ballants, d'un pied sur l'autre mal à l'aise, le cul posé entre deux chaises, tout étonnés d'être vivants. Ils sont souvent les en dehors, ceux qui n'écriront pas l'histoire. Et devant eux, c'est la nuit noire, et derrière eux marche la mort. Ils sont toujours les emmerdants, les empêcheurs, les trouble-fêtes, qui n'ont pas su baisser la tête, qui sont venus à contre-temps. Dans tel pays c'est malvenu, venir au monde en prison. Mais chaque jour on te pardonne, puis on ne te pardonne plus. J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au vent, des humiliés, des sans-logis qui tremblent. Les oubliés aux mal partis ressemblent. On peut souvent les voir aussi sur les photos des magazines, essayant de faire bonne mine, emmenez-moi au loin d'ici. Ils ont des trous à chaque main, c'est ce qui reste du naufrage. Ils n'ont pas l'air d'être en voyage, les voyageurs du dernier train. Ils sont toujours les séparés, le cœur perdu dans la pagaille, les fous d'amour en retrouvaille qui les ramènent sur les quais. Et puis parfois le fol espoir, si elle a pu, si elle arrive, de train en train à la dérive, et puis vieillir sans la revoir. J'ai vécu au siècle des réfugiés, une musette au pied de mon lit, avec la peur au ventre.
Voilà, maintenant je vais vous parler de notre grande opération des 10 jours pour signer, qui aura lieu la semaine du 10 décembre. Le 10 décembre étant la journée de la déclaration anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, texte sur lequel Amnesty International s'appuie et voudrait faire respecter partout dans le monde. Alors cette année, nous serons donc le 10 décembre à la médiathèque, de 10h à 17h. Donc le groupe d'Amnesty de Digne. Ainsi qu'en principe, il devrait y avoir des jeunes lycéens qui viendront nous aider. Alors, des lycéens du lycée Pierre-Gilles-Eugène, puisqu'il y a une antenne jeune dans ce lycée. Et cette antenne jeune va participer aux 10 jours pour signer, comme l'année dernière, où ils avaient obtenu plusieurs milliers de signatures. Et toutes ces signatures obtenues par les jeunes seront amenées au centre d'action le 10 décembre à la médiathèque, dans le grand couloir d'entrée de la médiathèque. Et puis, il y aura sans doute des jeunes aussi du Sacré-Cœur, parce qu'il y a une opération au Sacré-Cœur. Je crois d'ailleurs que Femmes Solidaires est invitée aussi. Voilà, donc ils vont faire dans ce lycée, ils vont faire un forum le 17 novembre où de nombreuses associations humanitaires ou de soutien, de solidarité vont se présenter. Et les lycéens seront conviés à choisir une association parmi toutes celles qui seront présentes et de donner quelques heures de bénévolat à cette association. Voilà. Donc nous, Amnesty, on a proposé de rencontrer les jeunes qui seront volontaires, de faire une première présentation d'Amnesty et puis très rapidement de les mettre dans l'action comme nous faisons régulièrement. Hein. Et notamment lors de ce samedi à la médiathèque, des 10 jours pour signer. Alors, 10 jours pour signer, on choisit donc 10 cas de violation des droits humains. Alors, ce sont soit des cas individuels, hommes ou femmes, soit des groupes qui sont discriminés, dont les droits ne sont pas respectés. Et on essaye d'obtenir un maximum de signatures de pétitions, d'envois de lettres, de courriers de soutien pour faire un flash sur ces personnes et puis sur la situation en général qu'elles subissent des violations. Et on obtient des résultats. Alors bien sûr, ça serait trop beau si tout marchait bien, mais par exemple, sur les cas de l'année dernière, on avait un cas de Walek Abou Al-Kher, qui est un avocat qui a défendu, vous savez, le blogueur qui avait critiqué le gouvernement en Arabie Saoudite. Et cet avocat défend des défenseurs des droits humains et pour cela, il a été condamné à 15 ans de prison. On n'a pas encore obtenu sa libération. Au Burkina Faso, on a fait toute une campagne et on a fait signer pour lutter contre les jeunes filles qui sont victimes de mariages forcés. Donc là, pareil, on a suscité des débats au sein du pays, mais il y a encore beaucoup de travail et il y a toujours une pétition qui est assignée en ligne pour ce problème de ces jeunes filles qui sont mariées souvent très jeunes. Ça peut être 7, 10, oui. Hein, Jacqueline, oui. À des hommes de 70 ans sans problème.
Plus âgées qu'elles et elles sont déjà à 15 ans, elles sont déjà mères en général.
Oui, alors ce qui pose aussi des problèmes au niveau physique, au niveau psychique. Voilà, donc c'était un des 10 cas de la campagne dernière. Ensuite, on a eu aussi Albert Woodfox. Alors là, c'est une bonne nouvelle, puisqu'enfin, il a été libéré et il a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont écrit pour lui. En Grèce, on s'était occupé de Kostas et son compagnon qui ont été victimes d'homophobie et de racisme et qui vivent dans la peur. Et donc, leurs agresseurs n'ont toujours pas été condamnés. Hein. En Iran, on s'est occupé de Samam Nassim qui a été torturé et condamné à mort à 17 ans. Et il a obtenu, alors là aussi, c'est une victoire, hein, il a obtenu de justesse le droit d'être rejugé. Donc on attend le nouveau jugement et on espère que sa condamnation sera abrogée. En Malaisie, on s'est occupé d'un dessinateur. Hein. Vous avez vu combien les dessinateurs peuvent être maltraités, voire assassinés. Hein.
En France.
En France. Et donc en Malaisie, il y a un dessinateur qui risque la prison pour une série de tweets et pour ses dessins. Au Mexique, on s'est occupé d'une femme, Yesenia Armenta, qui a été torturée, violée, asphyxiée. Et on a eu une bonne nouvelle, en juin 2016, elle a été libérée. Au Myanmar, on s'est occupé d'une syndicaliste étudiante, Fio Fio Hong, qui a été emprisonnée pour avoir manifesté simplement. Et là, on a aussi obtenu, grâce au soutien à toutes ces personnes qui nous ont rejoints, puisque c'est des milliers et des milliers de courriers qui ont été envoyés, et elle a été libérée en avril 2016. En République démocratique du Congo, donc le pays du docteur, l'homme qui répare les femmes, on s'est occupé de deux jeunes, Fred Boma et Yves Makwambala, qui... on crée une association, on fait partie d'une association qui protestait justement contre le fait que le chef de l'État actuel n'organise pas les élections pour prolonger le plus possible son maintien à la tête de l'État, hein, puisqu'il a fini ses deux mandats. Normalement, il ne peut plus se représenter, mais voilà. Donc les élections sont repoussées de mois en mois et la personne reste au pouvoir. Voilà. Et bonne nouvelle, ils ont été libérés, mais bon, la situation reste quand même très très difficile en République démocratique du Congo. Voilà. En Syrie, on s'occupait de Rania Al-Abbasi et de ses enfants, qui ont été arrêtés par les autorités syriennes et qui ont disparu, entre guillemets. Voilà, et eux, on est sans nouvelles, hein. Oui, Jacqueline.
Oui. À propos d'actions internationales, hein, puisque c'est ce que tu viens de citer, toutes les actions que mène Amnesty dans tous les pays du monde, est-ce que je peux dire un mot de l'action que nous menons à Femmes Solidaires depuis 10 ans maintenant en Éthiopie ?
Mais bien sûr.
Donc, au pays Afar, auprès de l'ethnie Afar, c'est dans le nord-est de l'Éthiopie, pas très loin de Djibouti. Voilà. Et c'est une action que nous menons pour lutter contre l'excision, contre les mutilations sexuelles imposées aux petites filles. Dans ce pays, comme dans d'autres pays africains, vous savez que dans le monde, il y a quand même 130 millions de femmes qui sont excisées ou infibulées, qui sont mutilées, en fait, puisque c'est une mutilation, une véritable mutilation. Et l'action que nous menons depuis 10 ans, c'est une action de marrainage. Nous ne parlons pas de parrainage, nous parlons de marrainage parce que nous sommes des femmes, donc nous sommes des marraines. Ça n'est pas une action caritative, c'est une action de solidarité réciproque. C'est-à-dire que nous avons aidé les femmes afar qui se sont élevées contre cette pratique cruelle dans leur région. Les femmes afar, c'est un peuple semi-nomade, voilà, qui vit dans des huttes en bois construites par les femmes. Et donc nous avons soutenu ces femmes en leur envoyant une somme d'argent que nous leur envoyons tous les trimestres, c'est 45 euros par trimestre. Chaque marraine envoie cet argent. On est 90 marraines sur l'ensemble de notre association. Et le but, c'était de passer une sorte de contrat avec la maman pour qu'elle ne fasse pas exciser sa petite fille par des exciseuses et qu'elle les scolarise en même temps pour leur donner la force plus tard de justement s'élever contre cette pratique. Et ça a permis, on a eu 90 filleules, mais ça a fait boule de neige et ça a permis dans les villages voisins que en tout 800 fillettes ont été protégées contre l'excision. Et maintenant nous continuons, ça a démarré en 2005, et nous continuons cette action en faisant en sorte que ces petites filles qui ont pu aller à l'école primaire ne retournent pas garder le troupeau à la fin de l'école primaire, mais puissent continuer leurs études en secondaire à Gawani, Et pour les protéger des prédateurs masculins dans cette ville, nous avons construit un internat où il y a pour l'instant, il y a 20 petites filles qui sont dans cet internat, qui ont fait déjà leur première année d'école, qui ont réussi. Et le but, c'est d'augmenter la capacité de l'internat jusqu'à 50. Et nous avons pu faire ça grâce à l'argent récupéré auprès des marraines, bien sûr. Moi, je suis une marraine. Nous en avons dans le département 6 marraines. Nous avons aussi eu de l'argent de la Fondation Elle, du journal Elle, et de l'ambassadrice de France de ce pays qui a pris fait et cause pour cette action. Voilà, je voulais simplement dire, c'est une action qui se prolonge, en fait.
Voilà, une belle action de femmes solidaires envers les filles et les femmes de ce pays, victimes de violences. Et ça rejoint, bien sûr, le combat d'Amnesty International. On va peut-être faire une petite pause musicale par un disque de Jacqueline.
J'enchaîne, oui, par rapport au thème que nous allons aborder le 8 mars 2017. C'est en fait ce que nous, on appelle la violence économique et sociale envers les femmes en France. Hein, là, il s'agit d'un thème franco-français pour le coup. Il s'agit de la souffrance des familles monoparentales. Donc, les familles monoparentales, on les appelle comme ça parce qu'il y a quelques pères seuls avec des enfants, mais c'est à 85% des mères seules avec enfants. Donc, nous allons l'intituler « Tout est plus difficile », c'est l'intitulé provisoire, hein, « Tout est plus difficile quand on est une maman seule ». Et ce sera le 4 et le 5 mars. Donc à la médiathèque d'une part et à l'Ermitage d'autre part, des conférences débats sur les aides qui peuvent être apportées, qui sont insuffisantes pour les familles monoparentales. Voilà. Donc, avec la présence de Alain Ferretti, qui est l'ancien président de la CAF des Alpes de Haute-Provence et ancien président de la CNAF, de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui viendra pour en parler avec nous. Et puis d'autres intervenants et intervenantes. Et la deuxième conférence débat, elle sera plutôt sur l'aspect psychologique, la souffrance des mères seules avec enfants, l'isolement, la difficile conciliation des temps, l'impossible même conciliation des temps. Et surtout quand on a des ressources modestes, et du fait qu'on est quasiment obligé de travailler à temps partiel, puisque les gardes d'enfants ne sont pas organisées de manière suffisante. Et nous allons profiter pour demander à nouveau, alors c'est complètement à contre-courant de ce qui se passe actuellement, mais demander à nouveau la création d'un service public de la petite enfance, gratuit et laïque, pas obligatoire bien sûr, mais gratuit et laïque, à l'instar de ce qui se passe pour l'école maternelle. Voilà. Donc ça serait l'idéal pour les femmes seules avec enfants. Donc c'est le voilà, je voulais parler un peu du thème de ce 8 mars qui est celui-ci. On sait très bien que la pauvreté en France a un visage de femme, hein, puisque ce sont les femmes qui sont à temps partiel, ce sont les femmes qui sont dans les métiers les moins valorisés et les moins rémunérés aussi, notamment dans les services à la personne, par exemple. Et voilà, donc on va parler
de... Puis qui se retrouvent avec des toutes petites retraites aussi.
Et alors, les retraites, bien sûr.
Quand vient l'âge de la retraite.
Y a une grande différence de montant de la retraite entre la retraite d'un homme et la retraite d'une femme, parce que une femme, justement, la maternité pour une femme, la maternité et l'éducation des enfants et la prise en charge des corvées ménagères, moi j'appelle ça des corvées ménagères, ont un impact sur la carrière des femmes, ce qui fait qu'elles ont des carrières souvent interrompues et du coup, quand elles sont âgées, eh bien, elles ont des retraites minimes. Et voilà, donc tout ça est à changer, est à prendre en compte dans notre société française, pour ne parler que d'elle.
Voilà, alors pour rebondir un peu sur le sujet, hein, je voudrais vous parler de petits livres qui sont édités par Amnesty International en coédition et qui parlent justement de discrimination, de stéréotypes. Alors nous avons une série de 4 livres qui s'appellent « La déclaration des droits des filles », « La déclaration des droits des garçons », « La déclaration des droits des mamans » et « La déclaration des droits des papas ». Voilà, et en fait, le thème de ces livres, ce sont la lutte contre les stéréotypes et les discriminations qui, en fait, sont source de violence. Et donc, on pense qu'il faut ces stéréotypes, ces discriminations doivent être combattues dès la plus jeune enfance. C'est pour ça que, comme disait Jacqueline, l'importance de l'éducation, hein, pour les filles et puis pour les garçons, et l'importance donc d'intervenir, pour nous, Amnesty International, intervenir auprès des jeunes. Donc vous avez vu qu'on a créé une antenne jeune au lycée Pierre-Gilles de Gênes. On va intervenir au Sacré-Cœur, on va intervenir aussi au lycée Alexandra Davinel et puis dans des écoles primaires. Voilà, alors... Pour vous revenir sur ces petits livres qui sont très attrayants, humoristiques, par exemple, je vous lis un petit peu la quatrième de couverture. Les papas, comme les mamans, ont le droit de ne pas être parfaits, de se lever pour le pipi au lit du petit, d'être des papas poules, de se mettre en congé de paternité, de n'être ni sportif, ni bricoleur, ni costaud, et de vivre leur histoire d'amour comme ils le veulent. Les mamans, comme les papas, ont le droit de ne pas être parfaites, de réparer les vélos, de s'éclater à leur boulot, d'être tranquilles quand elles lisent aux toilettes, de changer de vie et de vivre leur histoire d'amour comme elles le veulent. Les garçons, comme les filles, ont le droit de pleurer, de jouer à la poupée, de porter du rose, d'être bon en lecture, de ne pas être tous les jours des super-héros, d'aimer qui ils peuvent faire. Les filles, comme les garçons, ont le droit d'être débraillées, ébouriffées, écorchées, agitées, de choisir le métier qu'elles veulent, de ne pas être tous les jours des princesses, d'aimer qui elle préfère. Voilà, et c'est traité de façon très humoristique avec de très beaux dessins. C'est édité par Talent Haut, avec Amnesty International. Et ce sont des livres faits par Elisabeth Brami, Estelle Billon-Spagnol.
Je crois qu'il faut les recommander pour les fêtes de Noël quand même.
Voilà.
Ça sera vraiment alors, très bienvenu.
Ce sont des albums que nous présenterons à la médiathèque lors des 10 jours pour signer. Vous pourrez les acheter au groupe de Digne. Vous pouvez aussi vous les procurer dans les librairies, bien sûr. Un autre qui s'appelle Blanche-Neige et les 77 nains. Et donc, c'est un conte à partir du célèbre conte Blanche-Neige et les sept nains. Mm-hmm. Mais là, des nains, il y en a 77. Hein, donc, ça a été beaucoup plus difficile à dessiner. Et je ne vous délivre pas la fin, mais la fin est pleine d'humour. Et je vous conseille de le lire. C'est aussi un livre donc pour jeunes enfants avec de très beaux dessins. Un livre grand format, un album. Voilà. Donc, c'est le conte revisité et c'est un hymne à la liberté. Voilà pour ces livres que vous pourrez donc découvrir dans notre stand à la médiathèque le 10 décembre. Donc, on vous rappelle deux dates importantes. D'abord, le 25 novembre, Jacqueline.
Oui, le vendredi 25 novembre, à Cinétoile, le film « L'homme qui répare les femmes » avec un débat co-animé par Amnesty International et Femmes Solidaires à 18h30.
Voilà. Et puis, le 10 décembre, alors toute la semaine déjà avant, vous pourrez sur le site d'Amnesty signer des pétitions, mais je vous invite à venir à la médiathèque de Digne-les-Bains pour nous rencontrer, pour signer les pétitions, pour envoyer des courriers, pour, pourquoi pas, acheter des albums pour offrir à Noël. On aura aussi des calendriers, des cartes. Et puis, vous pourrez discuter avec les membres d'Amnesty International et vous verrez que c'est facile de se joindre à notre combat, même si on n'a que quelques minutes à consacrer par mois. Voilà, merci beaucoup. Merci Jacqueline.
Merci à toi Régis.
Merci Franck et merci Odile. Et puis à la prochaine fois, on termine avec à nouveau Lénie Escudero qui parle de solitude et du besoin de se rencontrer.
On l'écoute, au revoir.
Mon voisin est mort, je ne l'ai pas connu, je ne l'ai jamais vu, mon voisin est mort. À part quelques bruits à l'étage en dessous, mais des rien du tout, je ne sais rien de sa vie. C'est drôle l'émotion, je ne l'ai pas connu, et j'ai l'impression de l'avoir perdu. Je suis dans l'escalier, tu ne me vois pas, t'es sur le palier, je ne te salue pas. Être seul, c'est vivre seul au milieu de la foule. Et ça fait mal, tu sais, ça fait comme une boule te cache le soleil au milieu du désert. On n'est pas seul, tu sais, on est perdu, c'est pas pareil. Quand je pense à toi mon voisin, toi qui vivais là, tu vivais si loin. Je ne saurais rien du rien de tes jours, rien de tes chagrins, rien de tes amours. T'as dû avoir peur lorsque ton destin t'a pris par la main pour t'emmener ailleurs. Sûr t'aurais aimé avoir un copain pour t'accompagner un bout de chemin. Être seul, c'est vivre seul au milieu de la foule. Et ça fait mal, tu sais, ça fait comme une boule te cache le soleil au milieu du désert. On n'est pas seul, tu sais, on est perdu, c'est pas pareil. Bonjour mon voisin, bonjour inconnu, je suis celui du dessus, refuse pas ma main. Garde-moi pitié si des fois la mort revient au quartier pour frapper encore. Elle n'osera pas me donner la nuit quand elle verra que j'ai un ami. Faut-il que les loups reviennent chez nous rendre la chaleur que donne la peur? Être seul, c'est vivre seul au milieu de la foule. Et ça fait mal, tu sais, ça fait comme une boule qui te cache le soleil. Au milieu du désert, on n'est pas seul, tu sais, on est perdu. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas pareil.